Vous écoutez, on lit pour vous.
Après la prison, quelle vie? Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mars 2025 dans Le Devoir. Pour lui, la prison, c'est fini. Après 35 années passées à visiter les prisonniers et les prisonnières, Mohamed Lotfi tourne la page. À la barre de l'émission « Souverains anonymes », cet homme de radio aura fait entendre ceux qu'on n'entend jamais. À l'heure de la retraite, il se vide le cœur au sujet de notre gestion des prisons. La prison, plus que jamais, est instrumentalisée par le politique, déplore Mohamed Lotfi. On nous dit, on nous répète que les prisons sont là pour notre sécurité, ce n'est pas vrai. Il critique les discours sécuritaires comme celui du ministre François Bonnardel. La dernière fois que je l'ai entendu parler à Radio-Canada, il n'était question à l'écouter que des chiffres, comme si la prison n'était qu'une simple statistique. Ce n'est pas comme ça qu'on doit penser la prison, si on veut une société meilleure. Pour Lotfi, cette approche est un échec. Ce n'est pas pour rien que les journalistes n'ont pas accès aux prisons. Au bureau du ministre, ils sont susceptibles à la moindre critique. La prison, c'est le miroir de notre société. C'est fondamentalement le travail des journalistes de voir ce qui se passe aussi de ce côté. Selon lui, il est urgent d'ouvrir les portes closes et d'envisager une commission pour repenser le rôle de la prison face aux taux alarmants de récidive. Visiter une prison, c'est devenu comme franchir la frontière avec la Corée du Nord, affirme Mohamed Lotfi. Il y aurait, dit-il, de quoi écrire juste au sujet de cette méfiance de l'administration envers les médias. À son avis, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Quoi qu'on dise, il faudra bien, avant longtemps, une commission pour réfléchir et étudier la mission de la prison telle qu'on l'a dessinée chez nous. Une illusion de réhabilitation. La façon dont nous envisageons les prisons est un échec, croit l'homme de radio. La sécurité que les politiciens nous promettent en nous parlant des prisons, elle n'est absolument pas au rendez-vous. Faute de réhabilitation, la prison devient une école du crime. Les détenus apprennent, en prison, à faire des mauvais coups, à être plus criminalisés. On ne met pas les efforts nécessaires au bon endroit. Quand tu as 1000 détenus qui ne foutent rien, qui sont laissés à eux-mêmes, c'est dangereux. Une sécurité temporaire, ce n'est pas la sécurité. Mohamed Lotfi regrette que seulement quelques 200 détenus soient occupés dans des programmes pendant que quelques 1000 autres sont otages de l'oisiveté. Est-ce que le Québec peut faire preuve de plus d'originalité et d'ouverture pour faire les choses différemment? Je crois que oui. Mais pour l'instant, dit-il, on nous propose une illusion de sécurité, comme on nous propose une illusion de réhabilitation. Les détenus doivent pouvoir se sortir de leur situation, quitter la prison avec l'espoir d'une autre vie, d'un travail. Mais là, comme partout ailleurs dans notre société, on ne fait que gérer des urgences, sans penser à changer le fond des choses. En Allemagne, dans les pays scandinaves aussi, il y a désormais des prisons sans gardien, rappelle-t-il. Autrement dit, d'autres approches ont été développées avec succès pour envisager la réinsertion. Nous, on est loin de ça. Pour lui, notre conception de la prison fait même marche arrière devant des progrès nécessaires. En quête de dignité. C'est en 1989, en visitant la prison de Bordeaux pour une émission sur les sans-abri, que Mohamed Lotfi découvre cet univers. Comment en est-il venu à s'intéresser aux prisons? Plusieurs sans-abri se retrouvent là. Je voulais avoir des nouvelles de Chita Larrivé, une figure marquante parmi eux. Chita Larrivé était un peu le premier ministre d'André Gauthier, le roi des sans-abri. Il avait une voix inimitable. Il m'impressionnait par son caractère. Je me suis attaché à ces personnes. À travers Souverains anonymes, Mohamed Lotfi affirme que son rôle, au fond, se limitait à exposer le potentiel créatif des détenus et à l'encadrer pour qu'il se manifeste. L'essentiel de son travail, explique-t-il, était de les préparer pour qu'ils puissent articuler leurs pensées, leurs réflexions. Il ne parlait pas d'eux, mais du monde. Les détenus ont toujours quelque chose à dire sans qu'ils le sachent forcément. Il faut être prêt. Pourquoi ce nom de souverain anonyme? Les détenus sont anonymes derrière les murs de leur prison, c'est un fait. L'espoir, c'est d'en faire des souverains de leur vie, de leur dignité. Ils doivent préserver cette dignité. S'ils réussissent, ils sont des souverains. Faire parler les murs. Lotfi a collaboré à l'occasion avec Radio-Canada, notamment au temps de l'émission Macadam Tribu. J'ai collaboré, mais je ne suis pas pantoute un radio-canadien. Je suis quelqu'un du communautaire. Toutes les radios communautaires du Québec ont diffusé Souverains anonymes, mais aussi des radios en France et en Haïti. Des pays où il a aussi visité des prisons. Pendant des années, le travail de Mohamed Lotfi a été payé par les détenus eux-mêmes. J'ai été financé par leur travail, par le fonds des détenus. Un fonds qui existe encore, contrôlé par la direction de la prison. Il se souvient qu'avec les libéraux de Jean Charest, il s'est retrouvé sans rien. Ce sont 13 ministres libéraux qui ont fini par financer, à partir de leur budget discrétionnaire, le programme. Il y a eu des protestations. À partir de là, j'ai été un contractuel. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, j'ai une pensée chaleureuse pour ceux qui ont sauvé des vies en prison, des gestionnaires autant que des détenus. Je ne parle pas de gens qui ont empêché des suicides, mais de personnes qui permettent à des détenus d'envisager leur vie autrement et surtout une vie après la prison. Ce sont des gens de plus en plus rares. Bien des personnalités l'ont accompagné en prison. Il y a eu des personnages extraordinaires qui sont venus. Michel Chartrand, je crois qu'il a accepté de venir 3 fois à l'émission. Pierre Falardeau aussi est venu. C'étaient des gens extraordinaires. Ils conservent une affection toute particulière pour Pierre Vallière. Je l'ai bien connu. Vallière a été un des premiers à écrire sur Souverain anonyme. C'était dans « Vie ouvrière ». Quand je l'ai vu pour la première fois, je ne savais pas qui il était. Il était très discret dans son coin. Quelqu'un m'a dit « C'est lui, Nègre Blanc d'Amérique ». On a manifesté ensemble pour protester devant la maison de Pierre-Éliott Trudeau au 20e anniversaire de la crise d'octobre. J'ai beaucoup profité de mes rencontres avec lui pour le faire parler de son séjour à la prison de New York, de ses liens avec les Black Panthers. Un long entretien que Lotfi a réalisé avec Vallière en prison a été plusieurs fois rediffusé. Plus de 30 000 détenus auront défilé devant les micros de Souverains anonymes. Michel Rivard a déjà chanté la complainte du phoque en Alaska avec les prisonniers en guise de chorale. L'émission a accueilli quantité de grands noms, dont Gaston Miron, André Lachapelle, Dany Laferrière, Richard Séguin ou encore Michaël Jean, qui fut d'ailleurs l'invité de sa toute dernière émission. Mohamed Lotfi affirme ne jamais avoir eu de mal à pénétrer dans diverses prisons. Mais tant que les perspectives actuelles sur la prison ne changeront pas, une émission comme Souverains anonymes ne sera plus possible, croit-il. Personne ne va rentrer désormais avec des caméras et des micros comme j'ai pu le faire. J'espère, au moins, que l'esprit qui a animé Souverains anonymes va pouvoir survivre. Le site web continue, les rediffusions aussi sur CIBL. Ce sont les détenus qui ont empêché Lotfi de partir plus tôt, dit-il. Là, je pars. Je ne reviens plus. J'ai 65 ans. Mohamed Lotfi souhaite publier un livre. Dans ce livre, explique-t-il, un mur prendra la parole. Les murs parlent, tu sais. Mais, à condition qu'on leur adresse d'abord la parole. C'était, après la prison qu'elle vit, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mars 2025 dans Le Devoir.
Emma Green, Au-delà des blessures, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires. Après une adolescence tumultueuse, Roméo Cruz, 23 ans, a enfin trouvé sa voie en tant que secouriste à Chicago. En plus de lui fournir une bonne dose d'adrénaline, ce métier lui permet d'être au plus près de l'action et surtout d'aider son prochain. Mais voilà que revient à la caserne Maxima Miller, une amie d'enfance partie brusquement il y a 3 ans, sans laisser d'adresse. D'abord très froid à son égard, ne digérant pas ce départ précipité, le jeune homme devra malgré lui réapprendre à la côtoyer. Dans « À nos cœurs battants » du duo d'autrices françaises Emma Green, on se laisse totalement prendre par le mystère de l'amour qui, on le sait, a ses raisons que la raison ne connaît point. Arrivé sur les rayons des librairies québécoises juste à temps pour la Saint-Valentin, le nouveau roman d'Emma Green captive grâce au talent des deux autrices qui ont déjà largement fait leurs preuves avec une 30aine de romans vendus à 1,8 million d'exemplaires. Fanatique des séries télévisées sur l'univers médical, Emma Green ont voulu y camper leur roman. Elles ont effectué des recherches et récolté des informations auprès de personnes directement concernées pour façonner À nos cœurs battants, qui mêle à la fois amour, action et intrigue. Amoureux, pas pour de vrai. Le personnage de Max est une dure à cuire, contrebalançant l'image souvent véhiculée d'une féminité éthérée et clémente. Elle marque le respect de ses camarades masculins, mais doit affronter les requêtes insistantes de son patron. Ces hommes qui ont oublié d'évoluer nous voient comme des challenges, des territoires à conquérir, des jouets à obtenir à tout prix, même si maman a dit non en faisant les gros yeux. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'objet de la quête. C'est juste qu'on cède à leurs caprices. Et qu'ils gagnent, qu'ils possèdent. Pour repousser les avances déplacées de Warren, Max demande à Roméo de faire croire à tous qu'ils forment un couple, scénario qu'il acceptera finalement de jouer en échange de certaines tâches de travail ennuyeuses. Le projet a l'effet escompté et éloigne les sollicitations dérangeantes de Warren, mais la relation entre les faux tourtereaux se complexifie. De part et d'autre, le désir s'immisce entre eux et ne fait que croître, gênant leurs rapports qui ont toujours été bien définis. Pour Max, Roméo est le petit frère de son meilleur ami, expliquent les autrices. Ils ont grandi ensemble et elle a du mal à dépasser ça. Pourtant, le trouble et l'attirance sont de plus en plus flagrants et difficiles à ignorer. En parallèle, Max cache une peine et une rancœur liées à la mort de sa sœur Rose, dont elle traîne le carnet noir partout où elle va. On soupçonne que ce drame est la cause de ses 3 années d'absence. Mais elle reste muette sur les véritables raisons de son exil. Enfouissant profondément tout ce qui pourrait dévoiler sa vulnérabilité, la présence d'un sombre personnage traquant les allées et venues de Maxima vient ajouter à son malaise. Roméo n'est pourtant pas dupe. Il voit bien que sa coéquipière cache de lourds secrets. Mais lorsqu'il tente de percer sa carapace, celle-ci demeure imperturbable. Un roman social. C'est un livre qu'on a eu beaucoup de mal à écrire parce qu'il aborde un sujet très actuel, la violence faite aux femmes, annonce-t-elle d'emblée. Au cours de l'histoire, plusieurs chemins sont tracés, brouillant les pistes sur l'identité de la victime. Pour nous, le but, c'était de rappeler aux femmes qu'on est toutes concernées, qu'on a toutes dans nos entourages une amie, une sœur, une collègue dont on ne sait rien, qui vit ça dans l'intimité de sa maison. Depuis quelques années, le duo, tout en cadrant une histoire d'amour bien ficelée, prend à cœur d'aborder des thèmes sociaux. Sexisme systémique, consentement, racisme, homophobie sont des questions intégrées à la trame, faisant d'Emma Green des autrices de plus en plus engagées. S'étant connues à l'école de journalisme, elles mettent plus que jamais, en brodant le canevas autour de sujets d'actualité, leur première vocation à profit. On sait qu'on a une partie de notre lectorat qui est jeune et on se sent une responsabilité de passer des messages qui, il nous semble, sont très importants. Ce qui n'empêche pas l'amour d'être bien présent. On dit d'ailleurs qu'il triomphe de tout. Je pense qu'on a plus que jamais besoin, dans ce monde de violence et de chaos, de ce repère-là, continuent les autrices. Je crois qu'on est tous quand même, au fond, des grands romantiques, tous accros à l'amour. La popularité d'Emma Green, et plus largement de la littérature de romance, en font la démonstration. Qu'il s'incarne à travers un coup de foudre, qu'il s'installe dans la durée, ou qu'il se réinvente par le biais d'une nouvelle rencontre, l'amour, peu importe le chemin qu'il emprunte, a une histoire à raconter, et ce, en dépit des propos cyniques que les blessures d'amour nous font parfois tenir. Pourquoi s'enchaîner à quelqu'un et prétendre l'aimer toute une vie quand on sait que tout se barre, se demande Maxima. Emma Green, elle, croit-elle en l'amour qui dure toujours? Chacun trace un peu son chemin et vit sa vie comme il veut. J'admire ces femmes aussi qui rebondissent, qui retrouvent un grand amour à 50 ou 60 ans, après avoir fait d'autres enfants. C'est génial, tous les parcours de vie. Je crois qu'on croit en tout, en fait. On a le goût des autres. C'est une expression de Bakri et Jaoui. On adore le cinéma. Et c'est vraiment un truc qui revient tout le temps. Souvent, leurs séances de dédicaces s'éternisent. Elles passent 5 heures à parler avec les gens, curieuses des différents récits et vécus qui sont partagés avec elles. Et elles les consignent par écrit. Ça peut toujours servir pour un prochain roman. L'emploi de la double narration, procédé que les autrices ont adopté il y a déjà quelques livres, immerge le lecteur ou la lectrice dans la tête des protagonistes et lui donne un accès direct à leurs émotions et jusqu'à leurs sensations. C'est fort, rapide, profond. Nos peaux se découvrent et prennent feu. Nos corps claquent l'un contre l'autre, lui sur moi, moi sur lui, encore et encore. Nos regards ne se lâchent plus et nos doigts se croisent quand tout bascule. Mon monde dans son monde, sa vie dans ma vie et toutes ces vibrations au creux de mes incertitudes. Je m'abandonne à ce bouleversement. Emma Green croyait à leur début écrire un seul roman qui passerait inaperçu. Elles se sont trompées sur ce coup, mais elles détiennent assurément la clé pour faire tourner les pages et tenir en haleine. C'était Emma Green, Au-delà des blessures, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires.
Défense et illustration du village, sirotant un espresso chez Lulu. Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. Le village, c'est fini. Voilà ce que j'entends régulièrement depuis mon arrivée à Montréal il y a 30 ans. Oui, des connaissances me disaient que le village n'était plus que l'ombre de lui-même en 1993. Et moi, de constater quotidiennement son existence, ses changements, ses hauts comme ses bas, mais il est toujours là. Et tous les Cassandres qui l'ont, je ne sais combien de fois, enterrés peuvent aller se rhabiller. Le village est une entité vivante, et donc en mouvement. Qu'on nous préserve afin que celui-ci ne devienne pas un musée figé dans le temps avec des vitrines présentant quelques artefacts. Le village vit, et donc change, à l'image de nos communautés. Il ne ressemble plus à ce qu'il était à ses tout débuts, mais son âme et son cœur n'ont pas changé. Il est inscrit dans la vie et dans l'histoire de nos communautés. Le village, c'est avant tout ce qu'on en fait. Il est à nous aussi bien qu'à la ville de Montréal, qu'aux propriétaires de commerces et d'édifices. On peut, selon ses goûts, apprécier ou rejeter les initiatives prises par de nombreux partenaires pour embellir, rendre plus sécuritaire, plus accueillant le village. Mais ne devrions-nous pas commencer par le saluer et mieux encore par le soutenir? Tanné, je suis des critiques de gérants d'estrade qui, plus fins que les autres, ont toujours une solution à proposer. Solution qui commence chaque fois par « yaka », avec comme corollaire que les autres, pas eux, qui sont en charge du quartier, devraient en faire plus. Et pire, d'affirmer sans vergogne que ces fameux autres ne font rien. Moi aussi, je fais quelquefois des petits cacas nerveux devant les irritants, mots à la mode, qu'il m'arrive de vivre. Je donne facilement des clopes, cigarettes, à des itinérants, itinérantes. La plupart du temps, ils et elles sont plutôt cool. Parfois, je me fais engueuler parce que je ne donne que 2 ou 3 cigarettes. Une seule fois, l'un d'entre eux est devenu agressif, car il voulait en plus du cash. Il y a longtemps que je n'ai plus de cash sur moi. Et puis, il y a d'autres situations plus cocasses. Un jour, un gars m'a proposé, en échange de nicotine, une puff de cristal meth. Surpris, j'ai décliné très poliment sa proposition. Trop tôt dans la journée pour moi. Les itinérants et itinérantes me gênent. Bien sûr. Cela me gêne parce que cela me fend le cœur de voir toute cette misère humaine alors que l'on vit dans un pays extrêmement privilégié comparativement au reste de la planète. On se permet collectivement de laisser nos semblables mourir à petit feu sur les trottoirs. Mais rappelons qu'ils et elles sont nombreux et nombreuses à s'agiter pour tenter de diminuer les irritants dans le quartier. Les associations, l'arrondissement ou encore la SDC du village. On oublie aussi qu'il y a des consultations publiques, comme celle du conseil d'arrondissement ou les rencontres de la nouvellement créée Association citoyenne du village de Montréal. Même si ce n'est pas très bandant, ces rencontres sont aussi un exercice de démocratie directe. Mais cela demande d'avoir réfléchi et d'arriver avec des propositions solides qui ne se limitent pas à un « yaka ». Je n'essaie pas de repeindre en rose. Est-ce que la patinoire sur la place du village était une bonne idée? Je ne sais pas. De toute façon, je ne chausse plus de patins que pour faire briller mes planchers. Mais l'idée d'animer la rue en plein hiver est une bonne idée. Projet pilote, la patinoire reviendra ou pas l'année prochaine. Mais on ose, on essaie, on ne reste pas assis sur un banc de touche. Drôle d'utiliser des images sportives, moi qui n'ai aucun goût pour les arénas. Est-ce que c'était une bonne idée de fermer la rue Sainte-Catherine entre Atatecan et Wolfe? Je ne sais pas non plus. Peut-être devrait-on demander l'avis des commerçants? Faire le bilan pour améliorer le projet l'année prochaine. Je fais souvent une marche qui m'emmène de chez moi jusqu'au parc Émilie-Gamelin. J'ai toujours un moment d'émotion en passant devant le parc de l'Espoir qui rend hommage aux victimes du sida. Peu de grandes métropoles rappellent aussi ouvertement les ravages de cette pandémie. Le village est aussi un lieu de mémoire de nos communautés. Quand j'arrive au terme de ma promenade du côté de la place du Puy, je m'arrête toujours dans mon café de prédilection, chez Lulu. C'est aussi celui de mon collègue André C. Passiour. Un petit café qui ne paie pas de mine. Rien ne l'inscrit dans une tendance à vouloir réinventer le concept d'un endroit convivial pour partager seul ou accompagné un café et des viennoiseries. Rien de particulier, sinon en devanture le nom « Chez Lulu ». Le secret de ce lieu est à l'intérieur, la chaleur de l'accueil. Et pas seulement du patron, mais de toutes les personnes qui s'agitent pour les clients-clientes. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. On est reçu comme des invités spéciaux avec des échanges qui dépassent le simple « bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous prenez? » André C. Passiour, dont les origines sont égyptiennes, me le dit souvent. C'est cela la chaleur méditerranéenne. La famille Koury, Fadi, Marouane, etc., qui gère chez Lulu, n'est pas égyptienne mais d'origine libanaise, comme la plupart des personnes qui y travaillent. C'est une petite entreprise familiale, et je serais mal pris si l'on me demandait si la dame qui me reçoit parfois est la femme, la sœur, la nièce. Mais la chaleur de l'accueil est au rendez-vous, comme si vous étiez la personne la plus importante à franchir le seuil du petit commerce. Qui fréquente ce petit café? Vous seriez surpris, surprise de la diversité de la clientèle. Bien sûr, quelques aînés de nos communautés parfois réunis autour de la grande table de comptoir, mais aussi des étudiants, étudiantes, des touristes puisqu'on est en face de l'hôtel Hyatt de la place du Puy, des personnes trans, immigrantes et même parfois des ministres. Jeunes, aînés, blancs, blanches, noirs, verts, vertes, bleus, je crois que même si un martien se présentait au comptoir, il serait reçu avec toute la dignité et l'empathie que l'on doit ou que nous devrions tous et toutes avoir pour chacun, chacune de nos semblables. À l'image de ce que l'on voudrait pour le village. Et ils et elles sont nombreux, nombreuses à y travailler pour rendre le village encore plus accueillant. Voilà, j'aime le village. Je vis à côté depuis plus de 30 ans. J'ai moi aussi mes petits cacas nerveux devant des irritants. Mais après une longue respiration, je me dis que nous devons préserver ce quartier qui fait partie de l'histoire de nos communautés. En ces temps pas très joyeux, nous nous devons de faire vivre nos espaces de liberté. Et le village en est un. Une déclaration d'amour accompagnée d'une bouffée d'amour quand je quitte le café Lulu. C'était « Défense et illustration du village, sirotant un espresso chez Lulu ». Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.